la CCI 04 en Assemblée Générale.
La réunion annuelle de la Chambre de commerce et d'industrie est toujours un moment fort et instructif. Au-delà de l'aspect statutaire, elle permet de présenter des actions et dynamiques engagées ou à venir. Et en cette période d'incertitude liée à l'inflation, notamment des tarifs de l'énergie, la réunion permet de voir la CCI continuer à monter des projets et compléter son offre territoriale. C'est un indicateur encourageant. L'AG a été également marquée par deux intervenants extérieurs. Camille Galtier, le maire de Manosque, a évoqué ses objectifs économiques et commerciaux. Nous y reviendrons. Nous reviendrons aussi sur la prestation de Claire Marenco d'Imatera, qui a présenté des voies d'évolution du rôle des entreprises face notamment au changement climatique. On retiendra de l'intervention de Daniel Margot l'accent sur la formation et les actifs immobiliers et également le recrutement d'un apprenti pour aider les commerçants dans le domaine numérique, sans oublier l'appui encore plus marqué à l'agence de développement, acteur économique et touristique essentiel. Un autre volet plus technique a concerné le fonds de roulement qui a augmenté de 10,82% ou encore les recherches de financement pour pallier aux baisses de dotations dont celle de CCI France, enfin stabilisée après 5 années de chute. Au niveau des inquiétudes, sans surprise, l'inflation, la remontée des taux et les tarifs de l'énergie préoccupent les consulaires qui entendent conseiller les ressortissants au mieux en décryptant le marché de l'énergie. Les difficultés de recrutement et les remboursements des prêts de l'État furent aussi signalées. Enfin, le président Margot a évoqué un développement territorial avec en 2022 l'inauguration du 264 bis à Manosque et l'année prochaine la création d'une antenne de la Chambre à Barcelonnette, une dynamique risquée financièrement mais appréciée et attendue sur le terrain avec un objectif vers les villes sous-préfectures à l'horizon 2024-2025. Je vous propose d'écouter le président de la CCIT 04, mais d'abord le préfet Chapuis qui, avec la directrice des finances publiques, a livré des informations positives sur la situation de l'emploi ou encore les soutiens financiers de l'État à l'activité économique. Marc Chapuis, vous êtes préfet des Alpes-de-Haute-Provence. C'est votre première participation à l'Assemblée Générale de la CCIT 04. Votre sentiment ?
Alors mon sentiment, d'abord, c'est très important pour le préfet d'être au contact du monde économique et de pouvoir aussi prendre conscience du dynamisme des acteurs économiques. Dans ce département, disons-le, l'économie se porte plutôt bien, elle est diversifiée on a eu l'occasion de le vérifier aujourd'hui. Les indicateurs sont au vert, que ce soit en termes de chiffres d'activité, en termes d'exportation ou en termes d'emploi, puisque cette année, on constate une baisse de 16% des demandeurs d'emploi et une augmentation de 5% de l'emploi salarié dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Vous avez regretté cependant que les Alpes-de-Haute-Provence sont absentes et n'émargent pas à France 2030.
C'est vrai pour le moment. Alors France 2030, ça démarre. C'est ce qu'on appelait le plan des investissements d'avenir qui consiste à projeter notre pays en pointe sur un certain nombre de secteurs émergents, que ce soit dans le domaine de la mobilité décarbonée, dans le domaine de l'hydrogène, dans le domaine du nucléaire. L'État a identifié des grands secteurs stratégiques sur lesquels notre économie doit s'orienter par des projets d'innovation, des projets de recherche. Et donc, pour cela, on a besoin de faire connaître les différents appels à projets de France 2030. Et c'est vrai que pour le moment, dans les Alpes-de-Haute-Provence, on a peu de projets, à part un grand projet sur l'hydrogène qui s'appelle e-Green, mais qui n'est pas encore lauréat de France 2030. On y travaille.
Mais vous l'avez dit aussi, l'État met la main à la poche et soutient énormément actuellement.
Alors c'est vrai que entre le plan de résilience qui a été voté à la suite du Covid pour relancer l'activité économique, soutenir aussi les entreprises qui ont été très affectées par l'arrêt total de l'économie pendant plusieurs mois et à plusieurs reprises. L'État a multiplié les aides aux entreprises. Et puis c'est vrai qu'avec la crise en Ukraine, aujourd'hui, l'État fait à nouveau des efforts considérables pour contenir l'inflation, contenir la hausse du prix des matières premières et surtout préserver le pouvoir d'achat des Français. Quand le pouvoir d'achat est préservé, derrière l'activité des entreprises également.
Enfin, vous avez évoqué l'éventualité de délestage électrique. 2 heures éventuellement, ça fait un petit peu peur quand même aux entreprises.
C'est vrai qu'on n'a jamais fait de délestage, mais il vaut mieux un délestage de 2 heures en tournant par rapport aux différents usagers, qu'un blackout total qu'on a pu connaître dans certains pays lorsque la consommation électrique est supérieure à la capacité de produire de l'électricité. Donc c'est pour éviter un blackout qu'il ne faut absolument pas connaître que le gouvernement, si jamais les températures refroidissent beaucoup et si jamais la consommation électrique est trop importante, le gouvernement sera obligé d'engager cette mesure de délestage. Donc on s'y prépare depuis plusieurs mois. On va informer l'ensemble des usagers, à commencer par bien sûr les particuliers qui ont déjà été informés mais qui le seront plus encore, et puis aussi les entreprises et puis aussi les collectivités. On va informer et se préparer pour limiter au maximum les conséquences négatives que ces 2 heures d'interruption pourraient avoir sur l'ensemble des usagers.
Dernier élément, vous l'avez dit, il y reste une marge de manœuvre importante en ce qui concerne les énergies renouvelables dans notre département.
Alors notre département, il a la particularité d'être très en pointe sur les énergies renouvelables, pour la raison que nous avons des grands barrages hydroélectriques, à la fois sur la Durance et sur le Verdon, qui font que nous produisons énormément d'énergie d'origine renouvelable, puisque c'est l'eau qui permet de produire l'énergie. Mais sur le reste, on a encore des bonnes marges de manœuvre, notamment pour produire de l'énergie électrique, puisqu'on est un département très ensoleillé. Donc le déploiement de panneaux photovoltaïques, le déploiement aussi de la géothermie, à nouveau de la petite hydroélectricité. Ce sont des pistes sur lesquelles nous travaillons parce qu'on le sait, il faut décarboner notre économie, il faut apprendre à se passer des hydrocarbures et pour cela, il faudra qu'on augmente encore notre production électrique et avec l'électricité de produire aussi de l'hydrogène. Bref, les pistes sont très nombreuses et c'est vrai que notre département doit conserver son côté pionnier dans la production d'énergie renouvelable. En tout cas, on va y travailler avec l'ensemble des acteurs concernés dans les années qui viennent.
Daniel Margot, président de la CCIT 04, c'est une assemblée générale très dense que vous avez vécue.
Oui, très dense, parce qu'on avait pour objectif d'expliquer aussi la stratégie CCI France, CCIR et notre propre stratégie. Donc ça fait effectivement du volume, plus les éléments statutaires. On ne s'est pas ennuyé.
Et vous avez insisté sur le T de CCIT 04.
Oui, parce que c'est bien beau d'avoir des grands programmes et des grands projets, mais il faut que ça soit possible et réalisable sur nos territoires. Un territoire rural comme le nôtre, 90% des entreprises ont moins de 5 salariés. Donc avoir des grands programmes qui ne se permettraient pas de se développer n'a aucun intérêt. Le but d'une CCIT, c'est de pouvoir porter aux TPE et aux PME des outils leur permettant de progresser.
Et surtout territorialement parlant, c'est-à-dire que vous avez jeté le dévolu peut-être sur les sous-préfectures. Vous avez développé en 2022 264 bis à Manosque. C'est important, c'est une politique volontariste qui vous anime.
La gestion d'équipement est une politique volontariste. À la fin du mandat 2025, on souhaite être dans les sous-préfectures, comme vous l'avez dit, mais aussi dans les plus grandes villes de ce territoire, Oraison, Forcalquier. Pourquoi ? Pour être au plus près et être en proximité de nos chefs d'entreprise et de nos clients qui sont les mêmes.
Avec des services de conseil aux entreprises pour les financements, notamment les financements publics, mais aussi ouvrir peut-être des ateliers de coworking, pourquoi pas.
Voilà, alors coworking c'est déjà le cas et on va accélérer, et surtout en termes de financement, et monsieur le préfet l'a rappelé lors de cette AG, il y a énormément d'argent disponible par rapport au plan de relance et les chefs d'entreprise ne savent pas aller le chercher. Nous avons donc créé un poste de chargé de mission à la recherche de ces financements et à l'accompagnement.
Vous avez également évoqué le développement de l'apprentissage et là c'est l'éco-campus qui est concerné.
Éco-campus et subalternance Provence à Manosque, oui, c'est un fort enjeu pour nos entreprises que d'avoir des gens formés localement. Ce sont des gens qui ont peut-être envie de vivre ici et de travailler ici, il faut les accompagner dans la formation.
Évidemment, il y a l'inquiétude liée aux tarifs de l'énergie et à l'inflation galopante. Comment vous abordez cette période ?
Compliqué, notamment sur les énergies. On a des COEF qui s'emballent. Il faut faire de la pédagogie. Il faut accompagner les entreprises sur les 3 totems de l'énergie, à savoir comment acheter, comment consommer et comment produire. Nous allons démultiplier les ateliers pour pouvoir permettre une meilleure information.
Est-ce que vous craignez les délestages d'électricité ?
Oui, monsieur le préfet les a envisagés. Ce qui est important, s'il faut faire des délestages, faisons-les. Ce qui est important, c'est d'être prévenu et de ne pas les subir.